Le monde des affaires et de la politique réunis pour le Forum économique mondial.
Le Forum de Davos a donc fermé ses portes hier. 2500 leaders politiques et économiques ont débattu des meilleurs moyens de relancer la croissance.
Money, power, cash, cash, party, cash. Evolution, revolution.
Et non, vous n'êtes pas au Forum économique mondial, mais en direct du Forum social mondial de Tunis 2013. React, connect. Les Échos de Tunis, c'est une série d'émissions avec l'association ATTAC.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Les Échos de Tunis, une série d'émissions en direct du Forum social mondial de Tunis qui s'est déroulée dans la capitale tunisienne du 26 au 30 mars 2013. Alors, la meilleure façon de découvrir ce qu'est le Forum social mondial, ce qui s'y passe, les enjeux, on s'est dit que c'était de se rendre ensemble à la marche d'ouverture de ce forum. Donc c'est une marche partie de la place du 14 janvier à Tunis, donc une date maintenant historique car c'est la date du départ de Ben Ali. Une marche extrêmement colorée avec une vingtaine de milliers de personnes qui défilent dans les rues de Tunis. Des cortèges de toutes les couleurs, de différentes organisations, des cortèges d'associations, de syndicats, des mouvements écologistes aussi. On trouve aussi des cortèges de certains partis politiques tunisiens et également un cortège en hommage à Chokri Belaïd, assassiné en Tunisie récemment. Alors, très grosse ambiance pour cette marche d'ouverture du Forum social mondial 2013. Alors là, on va partir pendant cette émission à la rencontre de différentes personnes, des militants, des citoyens de Tunisie et d'ailleurs, qui défilent ensemble dans les rues de Tunis.
Bonjour, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ?
Je suis Cesare, et le coordinateur de l'Alliance internationale des habitants, qui est un réseau global de mouvements de lutte et d'organisation d'habitants.
Organisation d'habitants, tu peux préciser un petit peu plus?
Oui, la lutte pour les droits au logement, les droits à la ville, la lutte contre les expulsions, par exemple.
Et toi, tu es issu de quel pays?
Moi, je suis italienne, mais l'Alliance, c'est international. Donc, il y a des représentants de différents pays d'Europe, de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique.
D'accord. Et alors là, on est à la manifestation, à la marche d'ouverture du Forum social mondial. Tu peux expliquer un petit peu comment ça se passe, quelle ambiance?
Bon, elle est intéressante parce que la première fois dans ce pays. Donc il y a des choses intéressantes qui bougent, évidemment ça ressemble un peu du climat politique, donc ce n'est pas vraiment la grande manifestation. En tout cas, il y a une bonne représentation et pour ce qui nous concerne, c'est important parce qu'on va essayer de relier les problématiques du droit au logement, les luttes contre l'expulsion entre le global et le local, parce qu'ici aussi il y a des problèmes.
Qu'est-ce que vous y trouvez alors à ce Forum social mondial ?
Nous sommes en train d'organiser l'Assemblée mondiale des habitants. C'est une série de forums sur différentes thématiques liées au droit à l'habitat, la lutte contre les expulsions, l'accaparement des terres, le droit à la ville, le bien commun. Et ça va être des contenus pour l'Assemblée finale de convergence, qui c'est justement l'Assemblée mondiale des habitants, qui c'est un espace de convergence des différents mouvements de lutte. L'idée, c'est de constituer une sorte de via urbana, de voie urbaine et communautaire.
Et pour vous, c'est nécessaire, face aux problématiques de l'habitat et du logement, d'internationaliser cet engagement citoyen ?
Bien sûr, parce qu'avec la crise globale, c'est de plus en plus évident qu'il y a des relations très étroites en Europe avec les fiscal compacts. Ils coupent les budgets pour le logement, justement, parce qu'il faut respecter les dictats de la Troïka. Et aux États-Unis, c'est la même chose, le fiscal cliff. Et partout dans le monde où il y a de la dette, entre guillemets, ils contraignent le gouvernement à couper premièrement les services sociaux, notamment les droits au logement, les politiques de droit au logement.
Comment tu vois les 4 jours qui viennent ?
Notre idée spécifique, c'est que après l'Assemblée mondiale des habitants, que c'est dans le cadre de ce Forum social mondial, on va développer. Et donc les liens de solidarité, les échanges d'expériences, les partages de solidarité devraient un peu engendrer même des outils communs. Par exemple, des journées mondiales zéro expulsion pour les droits à l'habitat, où nous allons notamment présenter la session du Tribunal international sur l'expulsion à Genève au mois d'octobre.
Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Oui, je m'appelle Mohamed Habib Chourabi, j'habite à Solimont. Je suis membre fondateur de l'association pour le rassemblement pour une alternative internationale de développement, ATTAC Tunisie, depuis 1999. On était arrêtés en 2000 pour la tenue d'une association non reconnue. Après la révolution, on a été légalisé et on a coopéré avec, depuis 1999, on a coopéré avec Attaque Lyon, Attaque Rhône. On a fait des échanges, des visites depuis la création en 1999. Et on a joué un rôle important pour le Forum social mondial.
C'est un événement important qui se déroule en ce moment pour vous?
Oui, c'est un mouvement, c'est un moment historique. Hein. C'est un moment historique, bien sûr. C'est la première fois que tout le monde se rassemble sur notre territoire. Hein. Oui, c'est un moment historique, par excellence.
Et qu'est-ce que vous attendez de ces 5 jours-là de rencontres internationales?
Oui, on attend beaucoup, on attend à s'affirmer en tant qu'une nation qui est pour tous les principes universels qui sont maintenant, je ne te cache pas, qui sont menacés par la montée des intégristes au pouvoir. Hein. Voilà, c'est essentiel pour nous et pour aussi... pour rassembler les luttes contre cette vague néolibérale qui ravage tout le monde.
Et où est-ce que vous en êtes en Tunisie aujourd'hui face aux politiques néolibérales? Depuis la révolution, qu'est-ce qui a changé?
Bon, depuis la révolution, rien n'est changé. Hein. Le système hérité de l'époque Ben Ali, ça persiste encore. Hein. Et même les intégristes n'ont aucun problème avec ces systèmes. Donc, ils sont le prolongement ou la poursuite de ces systèmes. Hein. Mmh. Oui, oui. Et pire encore, ce que Ben Ali a fait pendant 23 ans, ils veulent, les intégristes, accomplir les projets de l'intégration totale de la Tunisie dans le système néolibéral en quelques mois, voire en 2-3 ans. Hein. Mmh. Voilà, c'est ça notre situation actuelle, que nous voulons changer.
D'accord.
Et on riposte pour ça, oui.
Et vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste sur la
situation?
Non,
je suis toujours optimiste. Comment tu veux que je sois pessimiste dans cette rencontre mondiale sur notre terre, hein, et dans cette globalisation de lutte que nous vivons actuellement maintenant? Je suis toujours optimiste.
Alors, on l'a vu à cette marche d'ouverture du Forum social mondial, il y a beaucoup de mouvements sociaux, des mouvements sociaux parfois nationaux, des mouvements sociaux aussi internationaux, comme là on vient de rencontrer l'Alliance internationale des habitants. Là, on part à la rencontre de militants syndicalistes. Ce coup-ci, voilà, des militants syndicalistes présents à ce Forum social mondial de Tunis à la marche d'ouverture.
Je suis Christian Pigeon, je viens donc de France et avec Sud-PTT et Solidaire, et on tenait à participer une fois de plus à ce Forum social mondial, et notamment plus particulièrement en Tunisie où la révolution n'est quand même pas si lointaine et où les conflits sociaux et l'impatience de la population est flagrante. Voilà, bon, bref. Et donc on tenait à être là et à montrer notre solidarité encore plus fortement puisque je travaille dans une entreprise, un groupe, une multinationale qui est présente en Tunisie. Et ce qu'on souhaite retrouver ici au Forum social mondial, c'est des points de rencontre entre les salariés de tous les pays qui travaillent souvent dans les mêmes secteurs d'activité, mais aussi des convergences avec toutes les associations et les ONG hein, qui ont des préoccupations qui nous sont communes en matière d'amélioration de la société, de protection de l'environnement et toutes sortes de choses de ce type-là sont développées hein, plus que nécessaire. Et c'est dans ce sens-là qu'on participera au maximum d'ateliers. J'ai oublié une dimension qui est extrêmement importante pour nous aussi, qui est la dimension de l'égalité homme-femme. Et c'est particulièrement vrai en Tunisie, puisque les femmes ont été elles aussi spoliées de la révolution qu'elles ont, à laquelle elles ont largement contribué.
Ah, okay. Bonjour à toi, est-ce que tu peux te présenter rapidement, comment
Alors,
tu t'appelles?
Je suis Jouda, je suis enseignante universitaire à la faculté des sciences, donc c'est mon fief et puis ça se passe chez moi.
À la faculté des sciences
de Tunis, oui, okay. C'est au campus là où se passe le forum, donc vous étiez
le campus El Manar.
Le campus El Manar, vous étiez sûrement ce matin. Donc on avait participé ce matin au rassemblement de femmes et donc cet après-midi à la marche venant de l'avenue Bourguiba jusqu'ici.
Et tu enseignes quoi ?
Sciences physiques.
Et toi, tu vas participer au forum social ?
Oui, je vais participer, pas en tant qu'association, mais en tant qu'individuel. J'ai eu le programme et donc je vais essayer d'assister dans certains ateliers au fur et à mesure donc, que ça se passe. C'est une occasion pour nous, puisque ça vient chez nous, et on est le premier pays arabe qui accueille donc, ce forum. Donc on en profite pleinement. C'est l'occasion ou jamais d'avoir des contacts avec les associations.
Et toi, tu attends quoi pour la Tunisie ou pour ton association de ce forum social de la semaine qui arrive ?
De ce forum social, j'ai parlé beaucoup avec les jeunes de ma classe. Je voulais que les jeunes participent. J'attends que les jeunes puissent faire plus de contacts que ceux qui sont de mon âge, puisque l'avenir, c'est aux jeunes, justement. Je pense que ce forum nous permet justement de faire des discussions, de donner des points de vue, de faire des connaissances. Et ça va marquer la Tunisie, puisqu'on est le premier pays qui a le premier arabe qui a reçu ça chez nous. Donc ça va marquer un peu la Tunisie. Les jeunes peuvent faire des échanges. Si les étrangers viennent chez nous, c'est une occasion de faire le contact, de voir les choses sous d'autres jours. Et c'est toujours un point positif par rapport à nos jeunes en Tunisie.
Et toi, tu as incité tes étudiants à participer ?
Oui, à participer. J'en ai vu pas mal ce matin au forum, au rassemblement femmes. Et j'en ai vu à la marche et ils vont assister tout à l'heure. Et demain, ils seront présents, enfin certains parmi eux seront présents dans les ateliers.
Et alors, ce rassemblement femmes, comment tu as trouvé cette séance ?
J'ai trouvé que c'était formidable, c'était extraordinaire. Il y avait la participation de femmes de partout dans le monde. Alors, on avait pu discuter un peu au fur et à mesure quand on était dans le rassemblement avec des Palestiniennes, avec des Africaines, Marocaines, etc. Et je pense que ça va faire un échange entre principalement les associations qui défendent tout ce qui est droit de femmes, surtout que nous en Tunisie, certainement vous le savez, on est nos droits ici sont vu le gouvernement actuel qui se trouve en Tunisie, nos droits risquent d'être perdus. Tout ce qu'a fait Bourguiba jusque-là risque d'être perdu. Mmh. Donc on essaie de défendre, pas d'arracher d'autres droits, mais surtout de défendre ce qu'on a déjà.
Ce que tu me dis là, tu aurais pu me le dire il y a 2 ans, par exemple, ou pas ?
Il y a 2 ans, en fait, sous l'époque Ben Ali, on avait un problème de démocratie, mais la femme n'avait pas trop de problèmes, en fait. On avait nos libertés, on avait nos droits, etc. Mais sous le nouveau gouvernement, comme c'est un gouvernement qui a une idéologie assez particulière, donc on risque justement d'avoir des pertes dans ce sens.
On a été optimiste par rapport à l'avenir des mouvements de femmes.
Il y a des jours avec, il y a des jours sans. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident.
Et cette manifestation s'est bien passée ?
Oui, à mon avis, ça se passe plutôt bien. Entre hier, on avait reçu donc les gens, ça se passait très très bien. On n'a pas eu de pépins. Et là, je pense que c'est grandiose. Vous avez certainement vu, c'était formidable, c'était fantastique.
Et je te remercie, je te souhaite un très bon forum.
Merci beaucoup. Et on est ravis que vous soyez là chez nous, à vous accueillir, à participer avec nous à ce forum.
Salut à toi, est-ce que tu peux te présenter ?
Oui, je m'appelle Shamsa Abdi, je suis de la Marche mondiale des femmes Tunisie.
Qu'est-ce que c'est la Marche mondiale des femmes tunisienne ?
La Marche mondiale des femmes, c'est tout d'abord c'est une organisation internationale qui réunit les femmes féministes, anticapitalistes dans tous les pays. Donc ici on a une coordination nationale, les membres de la coordination internationale sont aussi présents avec nous aujourd'hui. Plutôt présente avec nous aujourd'hui, voilà quoi.
Ok, et cette manifestation, elle est comment ?
Fatigante.
Ouais. T'as la voix cassée parce que t'as beaucoup crié ?
Oui, pas seulement aujourd'hui, parce que j'ai crié, j'étais en train de parler avec elle à propos de ceci, mais la semaine dernière, on avait eu les élections des étudiants dans les universités contre les étudiants islamistes, et on a gagné, donc ça mérite le coup, quoi.
D'accord, vous avez gagné à quelle échelle là-dessus ?
À 70% dans toutes les universités tunisiennes. L'UGET, l'Union Générale des Étudiants de la Tunisie, contre l'UGTE, qui est l'Union Générale des Étudiants Tunisiens, un truc comme ça, qui est une union des étudiants islamistes, pro-Nahda.
D'accord, donc vous, vous êtes affilié à l'UGTT ?
À l'UGET.
À l'UGET,
oui.
D'accord. Et qu'est-ce que tu espères trouver à ce Forum Social Mondial ?
La dignité. S'ils réclament la dignité, on doit l'avoir. Le plus important, c'est l'échange qui se fait entre les militants. Qu'est-ce qu'on peut apprendre et qu'est-ce qu'on peut enseigner aux autres ?
T'as déjà fait des belles rencontres ?
Jusqu'ici, oui. Oui, surtout avec les camarades de la Marche Mondiale.
On l'a vu, des mouvements sociaux, syndicaux, mais aussi des mouvements environnementalistes sont présents à cette marche d'ouverture du Forum Social Mondial. Alors nous, en France, on entend beaucoup parler de Notre-Dame-des-Landes, du combat citoyen, de certains opposants à ce projet. Mais il y en a d'autres, et ici, au Forum Social Mondial, ils se réunissent. Ils parlent pour définir ces grands projets, de grands projets inutiles à imposer. Et là, on rencontre des militants allemands qui viennent de Stuttgart.
Bon, je suis venu avec une dizaine de camarades de Stuttgart du mouvement contre Stuttgart 21, un grand projet inutile qui sert à rien, sauf à remplir les poches de certains capitalistes avec l'argent, les impôts que l'État leur paye. Le projet, c'est d'enterrer la gare existante.
Et qu'est-ce que tu espères trouver à ce Forum Social ? Pourquoi toi, qui lutte contre un projet au niveau local, viens ici à Tunis, à un Forum Social Mondial ?
Parce que pour notre mouvement, il est très important d'élargir son horizon. On s'est rendu compte, il y a un an ou deux ans, en allant au Val de Susa, en Italie, et en allant à Nantes, que de tels projets complètement inutiles, insensés, destructifs, c'est pas seulement à Stuttgart, c'est un peu partout qu'on en trouve et qu'il y a des grands mouvements contre.
Tu penses que ça commence bien, ce Forum Social Mondial ? Là, on est au premier jour, à la marche d'ouverture.
Ah, ben oui. Même hier, ça n'a pas encore commencé. On a participé à une petite manifestation des femmes devant le ministère ici. Et ce matin, il y avait une grande assemblée de femmes très, comment dirais-je, en feu, non, on a, avec beaucoup d'effervescence, vous dites. Et ici, la manif, c'est magnifique.
C'est l'Assemblée des femmes qui ouvre le Forum Social Mondial à Tunis. Et c'est l'effervescence. 50 000 personnes réunies pendant 4 jours sur le campus Almanar. 1100 associations tunisiennes présentes. Plus de 1000 ateliers. Des slogans en arabe. Des revendications économiques et sociales lors de nombreuses manifestations improvisées. On est bien là, en plein cœur d'un processus révolutionnaire. Nous allons donc pouvoir croiser, au cours de ces 4 jours, des femmes engagées dans leur vie quotidienne. Dans des syndicats, des associations, pour défendre leurs droits ou ceux des minorités dans leur pays. À écouter Ferian et Bouteïna, toutes les deux professeures à l'Université Almanar de Tunis, on se dit que la situation des femmes tunisiennes est assez complexe. On peut parfois avoir l'impression que tout est fini, que les femmes tunisiennes sont en train de perdre leurs droits. D'autres vous diront que tout va très bien, que la révolution est en cours. Les défis semblent en tout cas énormes, mais les femmes tunisiennes sont extrêmement mobilisées pour continuer la lutte et le combat. Contre la féminisation de la pauvreté, pour plus de justice sociale, contre les violences faites aux femmes, qui les poussent à quitter l'espace public et l'espace politique, et pour la lutte pour l'égalité hommes-femmes et l'inscription du droit des femmes dans la Constitution en cours d'élaboration.
Moi, personnellement, Personnellement, je suis enseignante universitaire. J'enseigne dans cette faculté. Depuis 18 ans, on est toutes les deux enseignantes ici. Et on a vécu la révolution, on milite pour amener quelque chose de positif pour la Tunisie. Mais je suis pas, moi, personnellement, je ne suis pas optimiste. Et c'est ça ce qui est dramatique. C'est qu'aujourd'hui, on a peur de perdre ce qu'on a. On a peur de perdre ce qu'on a.
Donc vous, vous êtes plutôt pessimiste, en fait.
Moi, je suis, pour le moment, je suis pessimiste.
On est pessimiste, bon, pessimiste, on est combative. Moi, je préfère dire qu'on est combative.
Par rapport à notre vision des choses, hein, parce que nous, universitaires et tout, on voit la Tunisie, une belle démocratie, on a tout ce qu'il faut pour aller vers une belle démocratie, etc. Donc nous, par rapport à notre vision, oui, je suis pessimiste. Par rapport à un processus révolutionnaire qui prend du temps, la France, ils ont mis 2 siècles pour instaurer une belle démocratie. Donc par rapport à un processus dans le temps, effectivement, on peut être optimiste. Mais nous, on veut tout rapidement, ouais, etc. Et voilà, par rapport à ça, je suis pessimiste.
Notre discussion est interrompue par l'arrivée d'un membre du gouvernement d'Ennahda, le parti islamiste au pouvoir en Tunisie, qu'une des professeurs prend à partie avec des échanges houleux, avec sa garde rapprochée, comme elle dit, qui montre bien que le pays est loin d'être pacifié sur la façon de voir l'évolution de la société ensemble.
Ouh, kishlek, ya rabbi, kishlek.
Kishlek, ça veut dire quoi ?
Minab.
Ouais, d'accord.
Celui qui est passé, mais celui qui était là, c'est un pro. Il le défend, islamiste. Mais comme il n'a pas trouvé quoi dire, il s'est cassé.
C'est normal qu'il soit là. Ouais,
c'est normal, il ne vous a rien dit. Et pourquoi toi tu le défends ? Laisse-le se défendre tout seul. Il a besoin d'un porte-parole, lui ? Mais c'est ce qui a fait de Ben Ali un dictateur. C'est que lui, quand on l'insultait, il y avait son armada derrière qui prenait sa défense. Et c'est comme ça qu'on a vécu 23 ans sous la dictature. Mais moi, j'insulte tous les jours. Moi, ma journée, c'est ça. C'est un combat permanent. C'est un combat permanent. Et d'ailleurs, je me dis, je sais pas si je vais pouvoir.
Parfois, c'est beaucoup d'énergie.
C'est énormément d'énergie. C'est de l'énergie, c'est de l'épuisement, c'est de l'énervement. Parfois, je suis très optimiste et après, je sombre dans une déprime pas possible.
Et vous, vous êtes engagée dans un parti ?
Non, 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 moi, je suis quelqu'un d'électron libre. Donc, je ne veux pas être dans un parti. J'ai trop de valeurs, j'ai trop de principes et je me dis, s'il y a un parti qui va dévier un tout petit peu de mes principes, je vais lâcher. Je ne peux pas. Donc, je milite pour mon pays, indépendamment des partis, indépendamment des associations. Là où il faut agir, j'agis. Mais je ne fais partie ni de parti, ni d'association. On m'a demandé, on m'a sollicité, etc. Je ne fais pas.
Ouais, vous voulez pas de compromission, en fait.
Non, non, non,
vous,
non, non. Moi, parti, j'ai mes valeurs, j'ai mes principes. Voilà. Et je sais que tous les partis, quel que soit le parti, ils sont là pour le pouvoir.
Ouais.
Ils veulent le pouvoir. Moi, je veux le pays. Je veux mon pays. C'est pas le pouvoir.
Il y a une méfiance plutôt des partis, en fait.
Une méfiance des partis parce que les partis, aujourd'hui, d'abord, ne sont pas structurés. Parce que autant on est en train de critiquer le parti au pouvoir, mais les partis de l'opposition n'ont pas de programme, n'ont pas de vision, hétérogènes dans leur composition. Donc, on ne voit pas où ils vont, ces partis-là. Voilà, ils ne sont pas en train de se structurer. Donc, du coup, on n'a pas confiance ni dans le gouvernement, ni dans les partis d'opposition.
Ouais. Donc, vous restez électron libre et vous essayez de défendre
pas
chaque jour tout ce que vous pouvez.
Voilà.
Quoi.
Et le jour J des élections, on votera pour le parti qui rassemblera le maximum, même si je ne serai pas convaincue par ce parti, mais je voterai pour ce parti pour éviter l'islamisme en Tunisie.
Oui, c'est ça. C'est vraiment votre préoccupation.
Voilà, c'est tout. On votera pour un parti démocrate laïque pour éviter l'islamisme en Tunisie.
L'intérêt d'un forum social mondial est bien là. Réunir les acteurs de la société civile mondiale, au-delà des partis politiques, se confronter à d'autres luttes, réactiver des convictions et mettre les énergies en commun. Car les différents problèmes évoqués lors des ateliers sont finalement tous liés. Le droit des femmes, la citoyenneté, le vivre ensemble, la situation des migrants, l'intégration des minorités. C'est justement ce que va nous dire Michel, bénévole au CCFD Terre Solidaire, engagé pour la défense des droits des Roms à Marseille.
Donc ce qui me motive, c'est un peu l'indignation. J'étais enseignante dans l'enseignement public durant ma carrière professionnelle et j'ai toujours enseigné dans des quartiers populaires. Et actuellement, je suis bénévole au CCFD après avoir eu des responsabilités nationales et locales. Et depuis plusieurs années, depuis plusieurs, disons les 2-3 dernières années, je suis très marquée par la situation des familles roms à Marseille. Alors, les familles avec qui j'ai le plus sympathisé, ce sont des familles qui vivent actuellement dans un bâtiment que nous avons réquisitionné. Nous avons réquisitionné une gendarmerie qui était désaffectée. Et voilà. Donc, ce sont des grands moments, ça.
Ouais. Après, toi, c'est un travail de longue haleine avec des moments.
C'est un travail de longue haleine et d'espoir et de désespoir. Les deux sont mêlés. Mmh. C'est comme les joies et les peines, c'est toujours mêlé. Ça, il faut qu'on le mette dans notre esprit, dans notre cœur. Voilà, donc c'est ça que je. Et puis alors, je voulais parler d'autre chose aussi, qui est très important. Au niveau de collectif d'associations, nous avons organisé un forum, un social forum, Forum.
Ah oui.
F-O-R. Apostrophe Rome, R-O-M.
D'accord.
Alors, c'est une étape vers un processus d'élaboration des états généraux des Roms.
Et quand est-ce que ce sera les états généraux des Roms?
Alors là, il y a une autre grande étape qui est prévue en novembre 2013 et puis peut-être en 2014.
Ah oui.
Là, pour l'instant, c'est un peu incertain parce que c'est pas évident d'avoir de tels projets, ouais, de les organiser. Et
on
voilà.
est sur des temps longs par rapport
On est
aux
sur
besoins,
des temps longs et puis il y a. Alors voilà, évidemment, lors de cette journée, on avait bien dit aux Roms, c'est pas au soir de cette journée que vous aurez un logement. Parce qu'eux, ils attendent de nous des solutions concrètes, ils n'attendent pas que de nous des discussions.
Ouais.
Donc, toute la question du dialogue entre les associations et les Roms, les associations, jusqu'où peuvent-elles aller?
Bien sûr.
Quel est leur pouvoir?
Ouais.
Il y en a un qui veut partir en Roumanie. Parce qu'il a laissé sa famille et ses enfants en Roumanie. Et il veut qu'on lui paye une maison. Alors, et je leur ai dit, nous leur avons dit, je ne peux pas te donner une maison. Comment tu veux que je te donne une maison? Donc la relation avec eux n'est pas évidente. La relation en vérité.
Donc ça, c'est vraiment ton engagement
Actuellement, c'est ma préoccupation. Participer à un collectif, c'est accepter de travailler avec des gens qui n'ont pas les mêmes idées que toi. Mmh. Et donc, j'ai expérimenté, grâce à ce collectif ROM, grâce au dialogue mutuel, aux actions mutuelles, et bien, peu à peu, nous nous sommes apprivoisés. Quand je dis nous, c'est les gens engagés au NPA, ou même à des mouvements encore plus à gauche que le NPA, qui suspectaient les chrétiens, des catholiques vraiment qui sortent de je ne sais pas quoi, ben grâce aux actions communes, nos barrières sont un peu tombées. Mmh. Et c'est l'humain qui a gagné. Je ne dis pas qu'on est d'accord sur tout. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de suspicion. Mais je peux témoigner qu'il y en a bien moins. Et ça, ça me fait super plaisir. Voilà. Quand nous parlons, nous sommes écoutés. Et eux sont écoutés aussi. Hein.
Oui, c'est ça. Dans
c'est
les
la
deux
réciprocité
sens, ouais.
qui m'intéresse. C'est pas que.
Yana ma, courir Bouragali, bouragali Sous nos fridois, tout nous c'est un gain de cossif Kep comment t'y fallou, askan yu mola yi li Voyez, j'y koi yu fidjole, yu fi sahad, kif, kif Yana marra nyon, khos da nyon Marba yi mi, lu nyi khare yu mi ni Ota bi wa yam bak mi Donne la ou kouti do ligue, bachek na Koupe yu meti, do lek lu ner, do lek lu do Fak siri di gane seki Dek bangi choy ba inonde Silim le nam mag warani Askan wi di joy ndak jakle Nyak dere mag werani Corruption ak injustice Bi si dek bi apuna Kon wak malan mo warani Wache si tali bi kalay puna Yana
ma
Ji sa te ve ke chet gi Nan yop ji de pou wa yi Dao song nyak tret gi
Yana
Fek bo yi fing len bo wan dao Tok tega le tak di khar Abonir kao
Yana
ma Ma te yi chi mbeti yi Khay tek se chi ba do lo yek nyu chet di nyi
Yana
I'm real, when you book la, as canu ben bopula, ni jite, ni nu jite, juba lolo kotula, gubla ginyoy fal, garna mami moilan, peche yu nu watal na tangi yon bu mokula, jik loho yu set, si lubal jajak yer, ji temk wana yu net, ji tu mai takal der, fakal ker, nyabungur du par parlo, jengu fumi dalo, fu askan bini nakarlo, yo, sen sen yu waksa kalat, mola fal, mola falat, tay bat yo yu nga pat, jengi yu nu dek, du nko takat, no, Senegal engora I'm like, I'm digga digga, no
Yana ma
Nabe ko bada la, loyo maja la Te banya na ko haja la
Yana ma
Generation gastu, deke saga Kasa gnyahtu
Yana ma
Yenna taska tu khibari Tumne suno nyakare, suno nakari
Yana ma
Benne askan, benne kanu Benne batu nyefni bambu wa
Semene ludul deke du yag Wai fi kache lo nyu fiji Panopi chapu ni wad nasak Muni saf, jamono yi bura ki dag Nyako askan wi nyu nyachi bas bu nemu yi gendi nasak Ndak fi ni justice bi danyu koi jendi Bo wachu lyoni takriz ndak fi mu lale mo ratak Suñu avenir nangul nañu mu nax say kon buñu xex génération bi ci top wara tax ñu wessu bop sa bop rew mi ñepp ko bok lu xassan kenn ñepp wok solidaire patriotisme suñu xol la wara tax bok combat bi ñi mëne ñepp doni farando yaqku 50 ans fi ne ñoko wax te farando
ya na
ci sa te be ci kat gi nañu ci de ko waji daw song ñak tret gi
ya
na na be ko ba da no ñu ma da no te bañe na ko xajo lo
Bien dans Les Échos de Tunis, une série d'émissions réalisées à l'occasion du Forum Social Mondial de Tunis. Alors là, c'est la première partie d'une série de deux émissions sur les médias libres. On réalise cette émission à partir de rencontres faites lors du Forum Mondial des Médias Libres. Alors pour cette émission, il y a aussi Lison qui est avec nous. Bonjour Lison.
Bonjour Pierre. Bonjour à tous.
Alors, de quoi on va parler dans cette toute première émission, Lison ?
Cette émission sera consacrée aux perspectives et aux problématiques des médias, non seulement en Tunisie, mais aussi en Afrique et partout dans le monde. Et ça sera également l'occasion de revenir sur ce qu'est un média libre.
Alors on commence par quoi dans cette émission qui durera une vingtaine de minutes ?
Alors je vous invite à partir à la rencontre de Ali, un journaliste militant qu'on a rencontré à la radio du Forum Social Mondial.
Avec Ali, on aborde la question des médias en Tunisie et notamment des médias dans la révolution tunisienne. A tout de suite. Bonjour Ali, je te rencontre là dans l'espace, encore dans l'espace média du Forum Social Mondial. Mmh. Alors toi, tu es très actif sur la radio du Forum Social Mondial qui s'appelle Radio Forum. Vous avez même pour l'occasion un créneau hertzien pour le diffuser. Donc vous diffusez sur la ville de Tunis, c'est ça ?
Oui, on diffuse sur la ville de Tunis.
Et toi, tu es actif dans une radio particulière en Tunisie ?
Oui, je suis créateur d'une radio qui s'appelle KFM sur Kasserine, qui diffuse encore sur Internet. Mais on a fabriqué notre émetteur, notre antenne, et on a commencé à diffuser dans une petite couverture de 2000 mètres. Et voilà, maintenant on est sur le point d'installer notre nouveau émetteur et un antenne qu'on a eu pour pouvoir diffuser et couvrir plus d'espace. Ce sera pour presque 25 km.
Alors si je comprends bien, cette radio qui est la tienne a été créée après la révolution tunisienne, oui. Après le départ de Ben Ali. Qu'est-ce qu'il en était avant des
en
radios
fait,
libres?
C'était avant de 2 mois. C'était avec les premiers mouvements à Sidi Bouzid. On a décidé d'avoir notre propre média, tant que le média tunisien, qui était à l'époque de Ben Ali, il a décrit les jeunes tunisiens avec des mots non convenables, comme des bandits, et des terroristes. Ils étaient le contraire, ils étaient en train de défendre leurs droits. Donc on a décidé de créer notre propre média. Et c'était une page sur Facebook et on a commencé la première diffusion sur Internet le 7 janvier 2011.
Mmh. Ouais. Et tu peux revenir sur cette petite période. Du coup, les médias ont eu un rôle dans la chute du régime?
Bon, je crois que les gens, les jeunes surtout tunisiens, ils n'avaient pas peut-être ils n'avaient pas le temps d'aller en ligne ou bien de voir ce qui se passe sur les médias parce que je crois que tous les Tunisiens étaient dans la rue défendre leurs droits, mais je crois qu'ils ont joué le rôle, les médias libres surtout, ils ont joué un rôle important à passer l'information à l'extérieur de Tunisie plus que l'intérieur, voilà.
Et maintenant, si on regarde la situation tunisienne, ces radios associatives, elles se multiplient. Mmh. Et est-ce qu'il y a un nouvel élan des médias libres en général?
La chose qu'on est vraiment heureux de l'avoir, c'est l'STRL, le syndicat tunisien des radios libres, qui était là depuis 2005. Mais il n'avait pas un bon climat et un climat favorable pour travailler ou pour défendre, vu que tout le monde connaît l'époque de Ben Ali. Mais après la révolution, le syndicat, il nous défend vraiment fortement. Il fait déjà des efforts énormes pour nous aider, pour aider les médias libres, les nouvelles radios, surtout sur le web. Et il faut bien dire que le syndicat a aidé plus que la moitié ou bien la majorité de ces radios-là à installer des studios, à avoir du matériel, et voilà. Donc c'est vraiment bien, et je suis vraiment très heureux d'avoir ce syndicat-là en Tunisie, aujourd'hui.
Là, on est dans le cadre du Forum Social Mondial de Tunis. Qu'est-ce que tu attends, toi, de ce Forum Social Mondial?
Pour le Forum Social Mondial, j'attends beaucoup de choses, vraiment, honnêtement. La première chose, je parle de la Tunisie. La Tunisie, les médias en Tunisie, surtout les médias nationaux, ils donnent une image très mauvaise de la Tunisie quand ils passent des informations et ils font, comment dirais-je, c'est comme un buzz pour la situation mauvaise de la Tunisie. Ils n'essayent jamais de faire passer des choses, du bien du Tunisie. La Tunisie, elle est toujours belle, elle est toujours comme elle était avant. Elle est toujours belle, il y a le soleil, il y a tout. Et la sécurité, je crois qu'il y en a aussi. Et le forum, je crois qu'il va prouver que les gens qui vont venir en Tunisie, les visiteurs, ils vont être toujours en sécurité. Et la Tunisie vaut bien le coup de venir pour la visiter.
Après cette entrevue intéressante sur les médias en Tunisie, les médias et la révolution tunisienne, on rencontre Saba de Reporters Citoyens pour une première approche des médias libres.
Quelque part, je dirais presque c'est un synonyme, le média, il se doit d'être libre avant tout. Alors pourquoi on revient dessus? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la situation par exemple en France, bon un peu moins qu'ailleurs quand même, de la liberté de la presse, avec tous les groupes industriels et qui, les patrons de presse qui prennent le pouvoir sur les groupes de presse, que ce soit en télé, en radio ou en presse écrite, on a vu qu'il y avait de l'autocensure un petit peu. Ensuite, les citoyens n'ont pas toujours accès à l'information, ou alors c'est une information qui est répétée. On entend souvent la même chose à la télé, à la radio, dans la presse, et donc on en a un peu assez de parler toujours des mêmes choses. Et le média citoyen est libre, et aussi celui qui va proposer des sujets, des reportages décalés qui sortent un peu de l'ordinaire et qui sont pas pour faire de l'argent ou pour faire vendre le support. Donc qu'on parle de sujets pertinents sans intérêt économique derrière.
Vous êtes toujours dans les Échos de Tunis. On retourne avec Saba qui nous présente le projet qu'elle mène au Forum Social Mondial de Tunis.
Bonjour Saba, je te croise Bonjour. Là en cette troisième journée du Forum Social Mondial. Le soleil est en train de se coucher, la fin de la journée approche. Et toi, tu fais partie de Reporters Citoyens, qui est une association française. Est-ce que tu peux revenir un petit peu plus
Oui, alors moi je suis journaliste, la coordinatrice du projet Reporters Citoyens, qui regroupe en fait l'école des métiers de l'information et le site de la télé libre. Donc on est autour d'un projet qui s'adresse à des jeunes de quartiers populaires de région parisienne qui n'ont pas accès à beaucoup d'informations et qui aimeraient être formés au journalisme citoyen, multimédia, écriture et vidéo pour pouvoir avoir des outils de citoyenneté, s'exprimer. Et parce qu'on s'est rendu compte que 75% des journalistes étaient issus de classes sociales privilégiées. C'est vrai qu'on sait que l'image de la presse dans les banlieues est très mauvaise, très négative, parce qu'il y a eu plusieurs incidents qui sont souvent dus à une ignorance des deux côtés. Et ouvrir la porte d'accès et communiquer plutôt que de critiquer, ça nous semblait être une bonne solution pour ouvrir le pont entre les citoyens, peut-être qui ont plus accès facilement à la communication et à l'information, et ces jeunes qui étaient plutôt isolés et qui ont envie de sortir, d'aller voir ailleurs, et ça fait vraiment une rencontre très très riche.
Plus précisément sur les débats au sein des acteurs de ces médias libres. La publicité, le modèle économique, bref, quel fonctionnement, pour quels médias, au final pour quelle société.
Et c'est vrai que par rapport aux médias donc indépendants de la publicité, on peut dire d'un autre côté, pour un média libre, c'est aussi indépendant d'un pouvoir exécutif. On est très intéressé par la valorisation des médias libres. Pour moi, un média libre n'est peut-être même pas un média à 100% sans pub, mais qui sort de la dictature de l'audimat. Et ça, c'est très important par rapport au travail journalistique. En France, pareil, on a des médias qui font des reportages d'investigation, et c'est pas pourtant ceux qui sont plus regardés. Et donc, justement, c'était vraiment d'avoir cette vision de sortir de la dictature de l'audimat. Bien sûr, en fait, moi, je pense qu'il y a aussi une vision à avoir par rapport aux médias libres, c'est de sortir aussi de l'industrie médiatique. C'est-à-dire, on est vraiment dans une vision industrielle des médias où ils servent des intérêts économiques assez puissants. Et je pense qu'il est important de sortir de l'industrie médiatique et d'être dans des modèles économiques où, en gros, on a limite un rapport direct avec l'auditeur, voire un échange, en fait, avec l'auditeur. Et finalement, donc, je reprends ma casquette en tant qu'anti-pub, c'est très important que l'on valorise énormément les médias libres. Il y a beaucoup de gens qui n'en connaissent pas. Et ça, c'est très important parce que nous, quand on est anti-pub et qu'on parle de problèmes médiatiques, déjà, quand on parle du problème de la publicité des médias, les seuls médias qui nous passent, c'est les médias sans pub. On ne mord pas la main de celui qui nous donne à manger. Il y a une sorte d'auto-censure de la part des médias très dépendants de la publicité à ce niveau-là pour parler des vrais problèmes.
Les modèles économiques, il doit aussi regarder vers les journalistes et lui donner les possibilités de prendre du recul et de pouvoir faire du journalisme réel et pas de scoop.
Et si on ne veut pas d'aide extérieure, et si en plus on peut être accessible à tous, donc gratuit, bah on vit comment? On ne vit pas en fait. Et du coup, le journalisme intéressant, il va être fait par des bénévoles, mais un journaliste est professionnel avant d'être bénévole. Et du coup, ça joue aussi sur la qualité de l'information. Pour moi, c'est important de trouver le juste milieu entre le modèle économique et une profession. Il y a aussi du journalisme citoyen qui peut être bénévole, qui peut faire sur son temps libre, mais il y a aussi des professionnels qui sont là et comment on le soutient aussi.
On part maintenant à la rencontre d'Erika qui travaille à Ritimo et a participé à l'organisation de ce Forum mondial des médias libres. Vous êtes toujours dans les Échos de Tunis en direct du Forum social mondial qui vient de se dérouler en Tunisie.
Là, on est très impliqués dans le troisième Forum mondial de médias libres. Depuis ces quatre derniers jours, on a eu d'abord deux jours très intenses, sachant qu'il y a vraiment trois thématiques importantes qui ont été abordées pendant ces deux jours, qui étaient déjà les radios associatives communautaires dans les paysages Maghreb-Mashrek. Donc c'était une question importante sur comment ces radios peuvent être aussi des outils de transformation sociale et politique pour plus de justice sociale, évidemment. Ensuite aussi, toute la question de l'appropriation technologique par les mouvements mouvements sociaux et citoyens. Donc pour nous, c'est très important que les mouvements comprennent les enjeux d'Internet, c'est-à-dire des protocoles libres. Aujourd'hui, Internet est de plus en plus accaparé par les multinationales informatiques. C'est la même problématique qu'on a par rapport aux ressources naturelles. Donc il y a des personnes et des mouvements qui se battent pour une Internet libre, comme elle était conçue au départ, vraiment un web ouvert. Et aussi sur la question de l'utilisation des logiciels et des réseaux sociaux libres, parce qu'on est de plus en plus dépendant de Google, de Facebook, de Twitter. Donc on veut aussi développer et faire connaître d'autres outils libres. Et aussi la question de l'information en tant que bien commun. Donc de plus en plus, l'information est devenue une marchandise. Et comment on peut avoir accès à une information plurielle, critique et diversifiée?
Alors si on prend l'exemple français, par exemple, du paysage médiatique, je vois ici que vous mettez l'accent sur les médias libres. Donc, par exemple, ça va être en France les radios associatives. On sait qu'en France, l'essentiel de l'audimat ou des auditeurs, ce sont les grandes chaînes, les grandes radios. Est-ce que c'est quelque chose qui est débattu, cette stratégie pour le mouvement social de se rapprocher des médias libres? Et est-ce qu'il y a un discours plus global sur l'état des médias aujourd'hui? Je parle plutôt au niveau français, dans les pays du Nord.
Oui, les organisations qui constituent ces forums sont des organisations qu'on appelle médias libres, c'est-à-dire des blogueurs indépendants, des journalistes indépendants, des radios associatives, des sites internet. Par rapport à la question du monopole, la concentration de l'information, les grands médias en France, c'est vrai qu'en France, c'est drôle parce qu'on parle beaucoup des pays du Nord, mais si on compare la France et le Brésil, bon, au Brésil, c'est un oligopole écrasant, mais il y a des choses, des similitudes, parce qu'en France, on sait qu'il y a quatre grandes familles aussi qui contrôlent, pas famille, mais quatre grandes entreprises multinationales qui contrôlent la majorité de grands médias, télé, journaux et chaînes de radio. Et on pense qu'au Brésil, donc la similitude, elle est à peu près, on va dire que bon, toute différence sociale, politique, historique à part, au Brésil, il y a 8 familles, là c'est vraiment des familles qui contrôlent toutes les presses d'un pays de 200 millions d'habitants. Donc ces questions du monopole, on en parle beaucoup. Par exemple, dans la déclaration, on discute avec les autres organisations sur la question du monopole et comment dans des pays du Nord et du Sud, on peut rendre les lois. Et on demande beaucoup de régulation de la part des États, parce que c'est le rôle des États réguler. Et parfois, tant dans les pays du Nord comme dans les pays du Sud, on entend souvent qu'on en parle de réguler la presse avec des lois démocratiques. Tout de suite, les groupes de presse, les grands groupes de presse, ils nous répondent « Ah, ça, c'est la censure, c'est une attaque contre la liberté d'expression. » Mais on n'attaque jamais, évidemment, les médias libres. Ce n'est pas du tout le but. Nous, on veut attaquer la liberté de rendre l'information une marchandise. C'est ça notre problème et notre combat.
Et est-ce qu'il n'y a pas des fois un différentiel de référentiel qui crée des tensions entre acteurs de certains pays du Sud où les médias sont surrégulés, où les médias sont même muselés, et des acteurs de pays du Nord où les médias sont sous-régulés, ce qui conduit à des monopoles économiques, des monopoles financiers sur les médias? Il n'y a pas une tension sur ce point-là entre deux façons assez opposé d'aborder cette question et
non, pas du confronter. Tout. Non, pas du tout, parce que je pense que ça dépend des pays. Bon, évidemment, ça dépend des pays et des régions du monde. Mais aujourd'hui, en Amérique latine, par exemple, les cas de censure, c'est souvent plus quand on essaye de mettre en place des règles de la part de l'État. Les États latino-américains essayent de créer des règles, des régulations. C'est là que les grands groupes de presse parlent de censure, le non-droit à la liberté d'expression. Si on prend le cas de la France, il y a des organismes en place qui jouent leur rôle. Hein, je ne dis pas. Après, c'est comment on appréhende la question du monopole des grands groupes qui ont transformé l'information en marchandise. Comment on peut se battre pour que dans des pays comme la France, cette l'information elle soit plurielle. Je pense que le combat il est plutôt là en France en tout cas, tandis qu'au Brésil non, au Brésil il faut qu'on se batte pour avoir plus de régulations parce que ça n'existe pas, il n'y a aucune, il n'y a pas de loi au Brésil aujourd'hui qui régule l'accès par exemple à une chaîne, à une antenne hertzienne, ou avoir le droit d'avoir une chaîne privée. C'est juste un décret de l'État, du gouvernement fédéral. Et il faut savoir que depuis des années, il faut penser que le Brésil était une dictature pendant 25 ans, donc jusqu'à 85. Et depuis, tous les gouvernements néolibéraux, ils n'ont jamais créé de loi. Et bon, dans les années 90 au Brésil, avec tout le néolibéralisme et toute la sociodémocratie au pouvoir, il y a eu beaucoup de consensus de radio et télé qui étaient donnés aux copains du côté des partis politiques au pouvoir. Donc là, il faut des règles plutôt claires. Donc on essaye quand même de prendre la dimension. Évidemment, il y a une dimension globale des valeurs communes qu'on aimerait défendre, mais sans perdre nos réalités géographiques dans les différentes régions du monde.
Est-ce que vous, acteurs des médias libres, trouvez des alliances et des revendications communes particulières avec les autres acteurs de ce forum social mondial qui ne sont pas du tout dans les médias libres, dans un contexte de mondialisation néolibérale?
Oui, parce que pour nous, on considère aussi, on aimerait bien que l'idée, c'est quoi un média libre? Donc, je vous disais, des blogueurs, des journalistes, des radios associatives, des sites d'information sur Internet, des journaux indépendants, pas que de journalistes. Et pour nous aussi, l'idée, c'est rajouter, c'est que les acteurs, les mouvements sociaux citoyens qui travaillent sur les questions du climat, migration, habitat, à partir du moment qu'ils produisent de l'information sur leur mouvement, eux aussi, ils font partie des médias libres.
Vous êtes toujours dans l'émission Les Échos de Tunis, en direct du Forum Social Mondial de Tunis qui s'est déroulé fin mars. Vous venez d'entendre Erika de l'association Ritimo et l'on reste à Tunis dans cette émission sur les médias libres et on part là à la rencontre d'Alain Geneste de l'association Acrimed. Bonjour Alain Geneste, alors j'étais avec vous ce matin. Vous faites partie, vous, de l'association Acrimed qui veut dire Action Critique Média en France. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu, vous, quelle pierre vous avez à apporter à ce débat qui se passe en ce moment sur les médias libres?
En ce qui concerne mon association Acrimed, que j'ai eu l'impression ici, donc on a une présence très marginale pour au moins deux raisons. La première raison, c'est une raison qui tient au FSM lui-même, à savoir le peu de place ou la place extraordinairement marginale que le FSM accorde, bon, à tort, selon nous, à la question des médias. Quand je dis selon nous, c'est pas uniquement Acrimed, puisqu'un certain nombre de gens ont pensé qu'il fallait construire un forum social des médias libres. Puis, deuxième chose, à l'intérieur donc de ce forum social des médias libres, moi j'ai eu l'impression, disons, que la part des radios était très importante. Donc, vraiment beaucoup de radios et un axe qui semblait priorerait dommageable.
Et alors, quel discours tenez-vous par rapport aux médias dominants?
Ces médias dominants sont deux choses en fait. C'est-à-dire que ce sont des entreprises comme les autres, c'est-à-dire qui attendent un taux de rentabilité qui montre leur financiarisation, donc des rentabilités attendues de l'ordre de 12% par exemple. Mais ce sont en même temps des médias qui contribuent à la domination idéologique de la bourgeoisie. Donc en tant que structure économique, je reviens sur la question de la publicité, donc ces structures économiques sont essentiellement des structures, je disais tout à l'heure, profitable, donc la marchandisation y est avérée. Ces médias sont en règle générale le modèle économique dominant, même s'il est bousculé aujourd'hui par la presse dite gratuite. Donc le modèle économique encore dominant, c'est celui d'un média vendu deux fois. Une fois vendu, surtout pour la presse écrite, vendu une fois aux clients, donc aux acheteurs du journal, et puis une deuxième fois, alors c'est pas du tout dans l'ordre hein, bien évidemment, une deuxième fois aux annonceurs. Donc les annonceurs sont ceux qui mettent de la publicité dans ces journaux, et bien évidemment normalement le tarif de la publicité varie, sauf pour des raisons politiques, mais économiquement varie avec l'importance du lectorat ou de l'audimat. Et cette présence de la publicité n'est pas sans conséquence sur le contenu lui-même de l'information. l'information. Alors ça ne veut pas dire que la publicité doit obligatoirement être éradiquée, mais ce souci de marchandisation à outrance n'est pas sans effet sur le contenu de l'information. Sur les gratuits, juste une chose, en fait les gratuits n'ont de gratuit que le nom, puisque leur modèle économique est un peu différent. Il s'agit aussi de profitabilité, il s'agit aussi de dégager des rendements très importants. Mais là, le journal n'est pas vendu deux fois, il est vendu qu'une fois, en quelque sorte. Il est donné au lecteur, mais il est vendu aux annonceurs. Donc en fait, on donne au lecteur, donc à celui qui va recevoir le journal, ben, on lui donne de la publicité. Cette publicité, on la paye lorsqu'on achète des pâtes, puisque bien évidemment, dans le prix des pâtes, il y a le coût pour l'entreprise de pâtes de ces pages de publicité dans les journaux gratuits.
Et alors, quel modèle vous imaginez? Parce que je pense qu'on est d'accord sur l'importance du droit à l'information. Quel modèle vous imaginez? Est-ce que vous imaginez des lecteurs, des auditeurs qui paieraient plus cher leurs journaux, l'accès à l'information?
Non. Nous, on pense que il peut très bien y avoir une presse qui continue d'être. Bon, on n'a pas, une réflexion qui est totalement aboutie et en tout cas qui n'est surtout pas définitive sur cette question, puisque nous, on cherche des solutions avec le plus grand nombre. Donc, on est totalement ouvert aux propositions. On a un certain nombre d'orientations qui sont celles qui devraient accorder la préférence à un service public de l'information. Mais à côté de ce service public de l'information qui ne prétend pas au monopole de l'information, il peut exister toutes sortes de presse, qu'elles soient commerciales ou pas. Alors évidemment, avec un certain contrôle, régulation. Par exemple, il nous semble tout à fait fondamental de réguler la concentration, une série d'orientations auxquelles il faut penser. Donc un service public de l'information qui soit pluriel. Bon, pour nous, ce service public doit être totalement indépendant du marché, c'est-à-dire des forces économiques, et indépendant du gouvernement, des forces politiques. Nous, on pense qu'un service public, c'est un service public qui est indépendant et qu'un enseignant peut trouver une liberté dans son métier, comme un journaliste peut trouver une liberté en dehors du gouvernement, mais peut-être pas, devrait pouvoir dans un service public. Et pluriel, c'est-à-dire qui assure la promotion du débat, puisqu'en dernier, on est bien sûr en démocratie, théoriquement en démocratie, je vais vite là-dessus, mais sur la question de la démocratie, quand on réfléchit bien, la quasi-totalité des informations dont on bénéficie vient de la presse, vient des médias. Or, ces médias, en étant ni indépendants ni pluriels, je suis en train de parler de la pluralité, nous frustrent le débat, puisqu'on est amené, encore une fois, je vais vite sur la question de la démocratie, mais on est amené à à décider, à opérer des tas de choix, mais encore faut-il que ces choix soient éclairés. Donc si on voit par exemple la question du traitement de la question économique dans les médias dominants, bon, c'est évidemment une caricature de pluralité, puisque on a toujours les mêmes qui ne présentent qu'une thèse. Bon, au plaisir de se rencontrer ensemble sur le terrain qui nous semble pour nous très important, c'est de refaire des médias une question politique et de s'emparer de cette question qui est oubliée depuis trop longtemps en France.
C'était Alain Genest de l'association Acrimed, Action Critique Média. On arrive à la fin de notre seconde partie d'émission sur les médias libres. Pour retrouver les éléments de cette émission, le Forum mondial des médias libres a un super site internet et je vous renvoie à son site, mais aussi au site internet de l'association Ritimo et à celui d'Acrimed, des sites tous les deux très fournis en information et avec des analyses passionnantes. Cette émission a été réalisée par Pierre Cerciron.
Le grain de sable. Pensée globale. Une émission proposée par l'association Atacrone. Agir local. Le grain de sable. Thank you.
Mm-hmm.